une bien belle journée. Le Secours Populaire organise tout au long de l'année des activités en partenariat avec le Centre Social CAF. Cette fois-ci, ce fut une journée à la neige pour 55 jeunes enfants et 8 adultes pour les accompagner. Soleil et neige à volonté, beaucoup d'activités, ski alpin, ski de fond, raquettes, luge et bien entendu, bataille de boules de neige, glissade et malgré les chutes, les éclats de rire étaient au rendez-vous.
Merci Dani, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur CFM 90.2, bienvenue sur tout ce qui est humain et nôtre, votre émission, l'émission animée par les bénévoles du Secours Populaire de Villefranche-de-Rouergue. Je suis Didier, je passe la parole à ma personne, à la personne qui est à ma droite.
Je m'appelle Dani, Daniel, que tout le monde appelle Dani, voilà, je suis au Secours Populaire.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis animatrice au Centre Social CAF à Villefranche et coordinatrice de l'accompagnement scolaire.
Bonjour, je m'appelle ou on m'appelle Couscous et je suis à la fois au Secours Populaire et à la Ligue des Droits de l'Homme.
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude et je suis au Secours Populaire.
Bonjour à tous, je m'appelle Christophe, je suis bénévole et salarié au Secours Populaire de Villefranche.
Et bonjour, et moi c'est Guy Cabrit et je suis à la Ligue des Droits de l'Homme.
Bien, alors aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons des invités. Alors, le sommaire de l'émission. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de la journée de vacances des enfants, des oubliés des vacances qui sont allés au sport d'hiver. Ensuite, on fera une petite pause musicale et enfin, on fera un petit coup de projecteur sur la Ligue des Droits de l'Homme dans notre rubrique. Heureusement, on n'est pas tout seul et en dernier temps, on aura l'intervention, comme maintenant tous les mois, vous en avez l'habitude, d'Inter-Emploi. Allez, on se lance, jingle.
Et voici l'actu du secours.
Alors, Christophe, Stéphanie, c'est vous qui allez passer sur le grill en ce début d'émission. Il y a peu de temps, quand est-ce que c'était exactement? Vous pouvez nous donner la date, à peu près, c'était au mois de janvier, c'est ça?
Février.
Donc au mois de février, vous avez amené des enfants au sport d'hiver. C'était où?
À la gueule.
À la gueule. Alors, ce que je vous propose, que Christophe, t'avais pris le micro pour avoir un peu de son et pour avoir un peu de la voix des enfants et leur impression. Ce que je vous propose, c'est de remonter dans le car et de repartir avec vous en ce jour de février pour la montagne. C'est parti.
Oui, bonjour. Je me trouve donc place de la Liberté. Il est 7h du matin. Il y a un bus, des enfants. Bonjour, Josy. Qu'est-ce qui se passe ce matin?
Alors aujourd'hui, ça va être une journée géniale. Nous partons tous au ski avec 55 enfants et 8 accompagnateurs, faire du ski de fond, des raquettes, du ski alpin, de la luge pour beaucoup. Les enfants ont de 6 à 12 ou 14 ans. Et donc, ce sont des enfants qui n'ont pas évidemment l'habitude d'aller sur les pistes de ski. Aujourd'hui, nous nous rendons à la Guiole et nous sommes très contents parce que le temps est très très beau. Donc, on va donner la parole à un papa qui amène sa fille depuis longtemps à toutes les sorties. Est-ce qu'il est heureux d'amener sa fille aujourd'hui?
Bonjour monsieur. Bonjour. Votre prénom c'est?
Frédéric.
Frédéric, alors c'est la première fois qu'ils viennent au ski les enfants?
Et non, ça fait quelques années déjà depuis et ça se passe super bien. Ils passent vraiment des bonnes après-midi, des bonnes journées. Et franchement, je conseille à pas mal de monde de venir parce que c'est vrai que...
De profiter de cette offre.
Ah oui, c'est une très belle offre pour une très belle journée avec tous les enfants, très agréable.
Okay. Et on vous a demandé une participation pour venir à cette journée, c'est gratuit, comment ça se passe?
Il y a une petite participation, après il faut voir ça parce qu'il y a des aides sociaux éventuellement pour certains enfants. Mais sinon, c'est vrai que la journée n'est vraiment pas chère et c'est vraiment très agréable.
Super, merci, bonne journée à vous.
À vous aussi.
Alors comment tu t'appelles?
Sadia.
Sadia, c'est la première fois que tu viens au ski?
Non, c'est la deuxième fois.
Deuxième fois? Ça t'a plu la dernière fois?
Ouais, pas trop, mais j'arrive pas.
T'arrives pas?
Non.
Tu vas faire quoi, la luge?
Luge et raquette.
Luge et raquette, ok. C'est quoi, comment tu t'appelles?
Luna.
Luna. Alors toi, c'est la première fois?
Non.
Non, t'as déjà fait plusieurs fois?
Oui.
Moi, ça a l'air, ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire? La luge?
Luge et raquette.
Luge et raquette. Et toi, tu t'appelles comment?
Fatima.
Fatima, et tu vas faire quoi, Fatima?
Luge et raquette.
Luge et raquette aussi. Et toi, comment tu t'appelles?
Kaina.
Et tu vas faire?
Luge et raquette.
Luge et raquette aussi. Tout le monde fait des luge et raquette ici.
Fois.
C'est la première fois que tu viens? D'accord.
Aussi.
Et le monsieur? C'est un accompagnateur, le monsieur. Bonjour,
oui,
monsieur.
Oui, l'accompagnateur Robert.
Robert. Hein? Donc, c'est la première fois?
Oh, c'est pas la première fois que je chausse des skis, mais ça fait très longtemps que je ne les ai pas chaussés.
Bon, ok, moi c'est pareil, ça fait très longtemps.
Ça va me faire drôle, je vais savoir faire encore.
D'accord, super. Oui, Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Amine.
Parle fort, Amine.
Amine.
Amine, c'est la première fois que tu viens au ski?
Non.
Non, t'as déjà été? Ouais, non. Ah, c'est là. D'accord, ok. Bon, on va passer une bonne journée, hein. D'accord? Et Bruno? Bruno, c'est la première fois que tu viens au ski?
Non.
Non.
Si.
Si, c'est la première fois? Et tu vas venir, tu vas faire les raquettes? Et la luge?
La luge et le ski.
La luge et le ski. D'accord. Comment tu t'appelles?
Smaïn.
C'est la première fois que tu viens au ski?
La deuxième fois.
Deuxième fois? Non, maintenant tu sais faire le ski, t'as l'habitude maintenant. Ça va être une bonne journée. En plus. Ouais, super. Et Laetitia?
Oui.
Alors, ça va?
Ça va.
Ça se passe bien?
Ouais.
Ouais. Bon, super. Tu vas faire la luge ou le ski?
Je vais accompagner la luge.
La luge, d'accord. Super. Hop, là-bas, j'ai quelqu'un qui veut parler. Qui c'est qui veut parler au micro? Comment tu t'appelles?
Tabata.
Tabata. Alors, t'es contente d'aller au ski?
Oui.
Ouais, super. T'as vu, il y a déjà la neige là. On voit déjà la neige sur le bord. C'est chouette, hein? Comment tu t'appelles?
Shamsi.
Shamsi. Et toi?
Serjim.
D'accord. Vous allez faire la luge?
Moi, je vais faire de la luge et du ski.
Ouais, super.
Voilà, donc cette belle journée de ski se termine. Nous sommes tous dans le bus. Tout le monde va bien. Il a fait très, très beau. Le soleil était au rendez-vous. La chaleur aussi.
Tout ce qui est humain est notre. C'est l'émission du Secours Populaire Villefranche sur CFM Radio.
Eh oui, elle a raison. Tout ce qui est humain est notre. C'est votre émission du Secours Populaire sur Villefranche. Alors, on a Stéphanie qui nous a rejoint aujourd'hui. Alors, bonjour Stéphanie. Alors, on s'est déjà croisé sur des journées des oubliés des enfants, mais comment ça se fait que tu es maintenant avec nous et qu'on te voit fréquemment dans les actions du Secours Populaire? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît?
Oui, alors pourquoi on est ensemble, je sais pas, ça s'est fait comme ça, c'est une rencontre de personnes, hein. Donc voilà, j'ai rencontré Josie que je connaissais pas auparavant et on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble là. Moi, je suis animatrice au centre social, donc j'ai les enfants en permanence. Et c'est souvent les mêmes enfants qui vont au secours populaire. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire les actions ensemble, ce qui est très bien. Et du coup, maintenant, toutes les actions avec les enfants, on les fait ensemble.
Jean-Claude, moi, j'ai une question à te poser.
Ouais.
Parce que là, je viens d'entendre dans le reportage des enfants qui ont déjà été au ski.
Oui.
Donc ils sont déjà allés au ski. Alors j'aimerais savoir quels sont les critères que vous avez pour sélectionner ces enfants. Pourquoi reprendre des enfants qui sont déjà allés, alors qu'il y a beaucoup d'enfants dans Villefranche, je présume, qui n'ont jamais mis les pieds à la neige?
Alors pour les enfants que tu as entendus, c'est les enfants qui sont venus l'année dernière. Parce qu'en fait ça va faire maintenant 2-3 ans que du coup qu'on fait ce partenariat avec le Secours Populaire. Et donc ces enfants, en fait, les seules fois où ils vont au ski, c'est avec le Secours Populaire. Donc oui, ils y sont allés, mais avec le Secours Populaire.
D'accord. Donc le critère de choix, il est fait ensemble. Tu fais le critère de choix de la sélection des enfants, le Secours Populaire et la CAF ensemble.
Oui.
D'accord.
En fait, bien sûr, on a des priorités. Ça va être des enfants qui partent pas en vacances avec leurs parents. Donc moi, en fait, les enfants que j'ai, c'est aussi des enfants que j'ai sur l'accompagnement scolaire, où déjà, il y a des critères d'inscription. Donc c'est des enfants qui bénéficient pas de loisirs. Ils vont pas dans des centres aérés. Donc voilà, financièrement, leurs parents peuvent pas. Donc c'est déjà des enfants que j'ai en animation qui pourraient pas se payer d'autres animations. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est instauré ce lien. Parce qu'en plus, on s'est rendu compte que les familles que j'ai, c'est aussi les familles qui vont au Secours Populaire. Donc en fait, c'était un lien de travailler ensemble. Et du coup, moi, je découvre d'autres enfants que je connaissais pas, avec qui, maintenant, vu qu'on fait toutes ces journées, quand ils me croisent dans la rue, je pense que voilà, ils croient que je suis bénévole au Secours Populaire. Pour eux, je fais partie du Secours Populaire.
Bah, tu fais un peu partie.
Mais j'y fais partie
en même temps.
Exactement. Hein,
je veux dire, à partir du moment où on est ensemble, t'en fais aussi un peu partie.
Exactement.
Alors, tu n'as pas que, plus rapidement là, mais tu ne fais pas que la journée des oubliés, puisque je t'ai déjà croisé dans des actions avec des enfants dans les maisons de retraite.
Oui, alors en fait, avec le Secours Populaire, maintenant que c'est installé, voilà, depuis 2 ans, je travaille. Enfin, avec le Secours Populaire, on fait toutes les actions enfants copains du monde. Donc ça va être sur l'année 4 ou 5 actions. Donc ça va être voilà. Par exemple, en février, c'est la sortie au ski, la visite aux maisons de retraite où les enfants préparent des cadeaux pour les personnes âgées, et on va passer une après-midi jeux, chant, même si les personnes âgées chantent mieux que nous, chant. et goûter, et on leur offre des cadeaux parce qu'on y va en fait pour la fête des grands-mères. Donc les enfants, quand je les ai moi le mercredi, confectionnent des cadeaux et on leur offre pour la fête des grands-mères. On continue ensuite avec, en mai, la grande chasse aux œufs solidaires qui est organisée nationalement aussi par le Secours Populaire. Et donc on le fait ici localement, on va le faire en mai, c'est une chasse aux œufs géants, tous les enfants, pour venir chasser. Soit donne une pièce, soit l'année dernière c'était donne du matériel scolaire qu'on a envoyé dans des écoles à Madagascar. Donc ça c'est sponsorisé voilà, aussi par Kinder nationalement et le Secours Populaire.
Et votre chasse aux œufs, elle a lieu où ?
Alors, elle a lieu le mercredi 13 mai après-midi, à partir de 2h. La chasse aux œufs se fera au jardin de Sainte-Claire, de l'EHPAD de Sainte-Claire, qui nous prête gentiment son jardin, et où, bien évidemment, on invite en fait les résidents à venir chasser avec nous, et leurs familles aussi. Voilà. Et pour finir encore avec les actions qu'on fait en partenariat avec les oubliés de vacances. C'est vrai que chaque année, normalement, on part à Walibi, fin août. Voilà, pour les enfants qui ne sont pas partis en vacances, les vacances d'été. Et là, cette année, c'est les 70 ans du Secours Populaire. Donc, est organisée nationalement une sortie à Paris, où les enfants, en fait, vont faire une sorte de chasse aux œufs géantes. Le matin, dans les quartiers de Paris. L'après-midi, pique-nique sur le Champ de Mars. Et l'après-midi, un concert géant. Voilà.
Alors ça, je voulais en parler à la fin, mais c'est pas grave. C'est très bien. Et ça promet d'être énorme.
Oui.
Parce qu'il y a quelques années, c'était l'anniversaire de la journée des oubliés, je crois. Et on s'est retrouvé avec 45 000 gosses à Paris. Et ça avait été assez énorme. Alors je sais que j'y serai là le 19 août aussi avec 5 gamins à surveiller. Ça va être chaud, mais ça va être bien sympa aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Christophe, pendant cette journée à la neige? Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes activités? D'abord, est-ce que vous en avez perdu des enfants? Non, vous n'en avez pas perdu.
Non, ah bon, pas. C'est cool. On les a tous ramenés.
Est-ce que vous avez rencontré l'abominable homme des neiges ou je ne sais quoi, moi, dans les neiges là-haut? Le Yeti, voilà. Non?
Non, on n'a pas vu.
Alors explique-nous un peu ce qui s'est passé.
Ah ben, il faisait beau déjà, donc c'était super agréable. Ben après, tous les enfants ont fait des activités différentes. Il y en a effectivement qui savaient skier, donc qui ont pu faire du ski alpin, mais il y en a d'autres qui ne savaient pas. Il y a ceux qui ont pris les raquettes, les luges. Chacun a fait des activités différentes. En tout cas, on les a tous ramenés nickel. Et ce qui était chouette, c'est que le soir, quand on est rentré, il y avait la moitié dans le bus qui dormait. Alors ça, c'était super, parce que vraiment, on voyait qu'ils avaient passé une bonne journée. C'était un plaisir de partager une journée comme ça, avec autant d'enfants, puisqu'il y avait plus de 50 enfants.
Combien il y en avait exactement?
55, je crois.
55.
55 enfants. Et on était...
Et alors ça va de quel âge à quel âge?
6, 12 ans, je crois.
Ouais, 7, 12 ans.
7, 12 ans.
7, 12 ans. 12 ans.
Effectivement, il y en avait qui ont parlé au micro et qui avaient l'habitude, mais ceux qui étaient venus pour la première fois, ils ne parlaient pas au micro, ils n'ont pas osé, tout simplement. C'est pour ça qu'on les a pas.
Il y en a certains, parce que j'ai déjà fait, même quand c'est la première fois, ils n'hésitent pas non plus. Faut les repérer, ceux-là.
Ça n'a pas été du tout le cas. Non, c'était vraiment agréable, et voilà, on a pique-niqué sur place, on avait une salle pour manger et tout. C'était vraiment super, bel encadrement. Tout le monde était content de rentrer, quand ça se voyait sur les visages et tout, c'était vraiment plaisant. Très très belle journée. À renouveler, c'est la première fois que j'y allais et j'ai beaucoup apprécié.
Ah oui, tu veux venir avec nous à Paris?
Ça, on va voir.
Nous deux dans le métro.
ça peut être sport aussi, ouais. À Paris, ça peut être sport.
Ben, normalement, à Paris, il y aura une autre organisation parce que c'est tellement énorme que il va y avoir, je crois, un adulte pour 5 enfants. Mmh. Et en plus, je crois qu'il va y avoir un adulte pour plusieurs accompagnateurs, quoi.
Oui, c'est ça. Nous, on part, en fait, à un adulte pour 5 enfants d'ici.
Voilà.
On va prendre 40 enfants de Villefranche.
J'avais entendu plus.
Alors,
même
80 sur le département. Ouais. Donc, 40 Rodez, 40 Villefranche. Et on va partir à un encadrant pour 5 de Villefranche. Mmh. En sachant que là-bas, je crois qu'il y a encore 2 ou 3 adultes qui nous accompagneront. Et apparemment, on est suivi toute la journée et encadré toute la journée.
Je sais qu'il y a quelques années, quand on était arrivé, il y avait effectivement, pour chaque. Il y avait une jeune fille qui était là. De la région parisienne, du Secours Populaire de Paris, et qui nous a accompagnés toute la journée.
Ouais,
en plus, un journaliste du Monde, d'ailleurs, qui nous a suivis toute la journée. Alors, vous allez voir, Il va y avoir toutes les télés hein, quand on va arriver à Paris, parce qu'en plus on, nous on vient de l'Aveyron, donc on est dans les premiers à arriver à Paris. Sur les coups de 6h, 7h, vous allez voir toutes les télés, les radios en bout de en bout de quai. Et c'est assez rigolo puisque on avait des gamins de Villefranche qui étaient passés sur une radio concurrente, France Inter, qui était passé à la télé et tout ça. C'était assez marrant, quoi. Donc ça promet une bonne journée. Je peux te dire, quand on va revenir, on va être bien fatigué.
Et oui, parce qu'on part la veille, train couchette, on rentre le soir en train couchette.
Dans le train couchette, ils vont pas dormir.
Folie
pendant tout le trajet.
C'est ça.
Et au retour en général, s'ils dorment. Là, ça dort, ouais, ça dort. Mmh. Enfin, ça promet une belle journée en ce 19 août, et évidemment on vous fera une émission spéciale sur ces 70 ans, parce que merde, les 70 ans du Secours Populaire, on espère qu'on durera pas 70 ans de plus, qu'un jour la misère sera éradiquée, mais je crois que c'est mal barré, malheureusement. Enfin, on sera pas là pour fêter les 140, hein. Il y a peu de chance. Toi peut-être, t'es jeune encore, ouais. Stéphanie, mais nous, on sera déjà bien loin, on sera les ancêtres enterrés. Bien, bah écoutez, je vous propose une première pause musicale. Allez, on va laisser chanter d'abord Jean Ferrat, La paix sur la terre.
De la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. devant tous les peuples frères qui s'emporteront gamant. Déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Alors, c'était donc Jean Ferrat, une chanson de Jean Ferrat. Alors, tu peux préciser le titre, puisque je me suis trompé, Dani.
La paix sur terre, tout simplement.
Alors, la paix sur terre, tout simplement. Alors, pourquoi on a choisi cette chanson? Eh ben, Dani va nous expliquer l'histoire de cette chanson.
Non, monsieur va l'expliquer.
Alors c'est Jean-Claude qui va nous l'expliquer.
Alors, l'histoire de cette chanson, ma chère femme a écrit et compose. Et donc, elle avait envoyé le texte
à
la maison, le texte et la musique à la maison de Jean Ferrat. Donc, j'ai dit à Jean Ferrat, je sais pas si c'est lui qui a reçu le texte, parce que je sais pas comment ça se passe dans les maisons d'édition. Mais on a eu une réponse en disant que la chanson était bien, mais qu'elle avait un défaut, qu'il y avait beaucoup trop d'adverbes. Donc, ça s'est terminé, il y avait beaucoup de finitions en adverbes. Bon, le temps passe, au moins 2-3 ans, plus que ça. Et on avait pris l'habitude, on avait une maison dans le Berry, et on revenait tous les soirs. Le week-end, on remontait chez nous. Et on avait pris l'habitude.
Oui, parce que, faut préciser, parce que quand tu parles du Berry, qu'après tu te remontes chez nous, ça veut dire que c'était pas en Aveyron.
À l'époque, nous habitions la région parisienne.
Comme Jean Ferrat.
Donc, comme Jean Ferrat, oui. À Ivry, au départ, puis bon, on va pas raconter la vie familiale. Mais dans la voiture, on avait pris l'habitude de fredonner, de chanter des chansons. Et on la chantait régulièrement, cette chanson, dans la voiture. Et puis, d'un seul coup, on écoute à la radio, je ne sais plus laquelle radio, et qu'est-ce qu'on entend? La chanson. Et nos deux enfants qui étaient derrière se sont mis à crier, « Maman, ta chanson !»
C'est beau, ça. Ouais.
Donc, alors du coup, ma chère femme a écrit à la... comment dirais-je, de nouveau à la maison de disques, en les remerciant et qu'elle lui avait redonné confiance, parce que, vu la première réponse, elle avait été un petit peu contrariée, et puis elle avait arrêté tout, de complètement d'écrire. Et en ayant écouté cette chanson, ça lui a redonné confiance, et elle s'est remise à écrire. Voilà.
Alors, a priori, il a changé, il a rajouté un strophe, c'est ça?
C'est quand il parle de la cendre sur les yeux. Moi, ça me plaît pas, cette phrase-là.
C'était pas ce que tu avais écrit.
À moi, non, tiens. Est-ce que j'ai écrit ça quelque part?
Non, effectivement, non. D'accord.
La cendre sur les yeux, moi, ça me choque. C'est une expression qui me choque. C'est tout. Il n'y a que ça, parce qu'au demeurant, j'aime beaucoup tout ce qu'a fait Jean Ferrat, je l'adore. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai toujours adoré toutes ses chansons et c'est formidable. Mais il a chanté des textes d'autres personnes, ça n'a rien à voir. Mais ça, la cendre sur les yeux, je ne peux pas.
Alors, Dani, elle est un peu timide, elle est un peu. Mais sachez que on a découvert une Dani au Secours Populaire qui
multifacette,
et rédige des magnifiques poésies. Toutes les petits éditos qu'on fait depuis quelques semaines, depuis quelques mois là, qui lance l'émission, c'est elle à chaque fois, et qui a aussi du talent dans la peinture, qui a aussi un piano, qui compose de la musique. Enfin bref, c'est une personne bercée par les arts et versée dans les arts. Et franchement, je l'ai découvert il y a peu. Et bravo Dani, quoi.
Tu me gênes, hein, là.
Alors peut-être que le mois prochain, tu vas nous sortir une chanson, je sais pas, c'est Brassens qui l'aura écrite.
Ah non, non, non.
Si t'en
non.
avais une chaque mois, on pourrait faire une petite chronique comme ça. Non, t'as que celle-là.
J'ai pas que celle-là, mais de toute façon, j'ai pas non plus.
En tout cas, bravo à toi Dani, et puis merci, puis continue avec nous dans l'émission. Voilà, c'était une petite parenthèse avec ceux qui ont du génie chez nous, dans les bénévoles du Secours Populaire. Allez, on enchaîne avec la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est « Heureusement, on n'est pas tout seul ».
Heureusement, on n'est pas seul, on a les copains.
Et alors, les copains, aujourd'hui, c'est la Ligue des Droits de l'Homme. Et qui de mieux pour lancer Guy Cabrit que notre ami Couscous. Allez, à toi, mon Couscous.
Mais je vous remercie. C'est un honneur de lancer mon ami Guy. Alors effectivement, oui, Guy, ça fait quand même 3-4 ans qu'il est président de la Ligue de la section Villefranche de Casseville. Et disons-le, il fait bien, il va vous le développer tout à l'heure, hein, mieux que moi. Moi, si vous le voulez, je vais vous dire quelques mots sur la création de la Ligue. C'est quand même important à savoir, la plupart le savent, mais pourquoi pas le répéter pour ceux qui l'auraient oublié. Aline, et donc, en 1898, c'est un nommé Ludovic Trarieux, qui était un parlementaire quelque chose dans ce goût-là, et qui assistait au procès Dreyfus, le fameux procès Dreyfus qui a permis à Zola de faire son livre J'accuse, ô combien célèbre. Et
l'affaire Dreyfus, on peut rappeler rapidement, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaîtraient pas.
T'as totalement raison, oui. L'affaire Dreyfus, c'était un capitaine de l'armée française qui avait été accusé de trahir, de trahison, de haute trahison même. Tout simplement parce qu'il était juif, et ça ressortait dans le procès d'une manière absolument abominable.
Oui, il y a eu deux clans,
complètement.
Les anti-Dreyfusards et les Dreyfusards. Voilà. Et les anti-Dreyfusards, c'était vraiment mené par l'antisémitisme. Quoi.
Tout à fait, ça a fait tout un pataquès à l'époque, et ça a donc permis, grâce à Ludovic Trarieux, de créer la Ligue des Droits de l'Homme. Alors la Ligue des Droits de l'Homme, moi je lis là, et son but est de défendre et promouvoir les principes de liberté, d'égalité et de fraternité énoncés dans les déclarations des droits de l'homme. Alors il y en a eu trois, des déclarations, je ne veux pas vous en parler, l'important c'est le principe, voilà, le principe de défendre, n'est-ce pas? Et j'avais noté, pour terminer, avant aussi, vous le permettez de passer la parole à Guy, qui lui va nous parler des actions contemporaines, des actions modernes de la Ligue, de ce que nous y faisons et de ce que nous avons l'intention d'y faire également. Alors, j'ai simplement cette phrase. C'est la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme, fidèle à son histoire, et plus que jamais le lieu de réflexion et de combat unitaire où se trouvent les démocrates attachés aux principes de la République. Dis, mon ami, si
j'aurais une petite question, Couscous. Est-ce que la Ligue des droits de l'homme, bon, on la connaît en France, mais est-ce qu'elle est internationale aussi?
Oui, elle est internationale sous un autre nom. Aide-moi Guy, s'il te plaît.
C'est la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme.
Ouais,
la Fédération internationale, qui voilà. Existe, qui a été justement que la Ligue des droits de l'homme a créé, puisque la Ligue des droits de l'homme, d'abord, bon, elle est française, et donc après, il s'est créé cette fédération-là, et qui s'est créée en 1922. Et donc, adhère des pays. Donc, il y a des Ligues des droits de l'homme dans différents pays. Et il y en a une qui est pas mal active, où vous avez beaucoup entendu parler dernièrement, certainement, c'est la Ligue des droits de l'homme en Tunisie, par exemple. Mm-hmm. Et qui a été en avance, enfin, c'est vraiment à la pointe de la révolution tunisienne. Voilà. Donc, la Ligue des droits de l'homme.
Ça doit pas être facile en Tunisie.
C'est pas si mal que ça. La Tunisie, c'est pas si mal que ça.
Il y a des pays, ça doit être plus difficile, quoi.
En Tunisie, la Tunisie, quand même, s'engage sur une voie assez démocratique. Ouais. Et c'est vrai que, bon, c'était pas facile du temps de Bourguiba. Et pour les gens de la Ligue des droits de l'homme, ça a toujours été assez compliqué. Parce que quand vous défendez la démocratie et que vous êtes sous une dictature, il y en a plus d'un qui ont été emprisonnés. Mais ils ont toujours été présents. Et en ce qui concerne la Tunisie, et puis bon, en Tunisie, les islamistes vont pas gagner tout simplement parce que les femmes tunisiennes, elles ont été à l'école. Ça, c'est un des avantages quand même du temps de Bourguiba, c'est que les femmes tunisiennes sont instruites, et c'est elles presque même qui font marcher un peu la boutique, j'allais dire. Donc, elles vont pas se laisser voiler comme ça. Et c'était vraiment un pays laïque. Il y a ça quand même en Tunisie. Donc, on a bon espoir. Enfin, pour moi, je croyais quand même que la Tunisie s'engage sur une voie démocratique. Pour le moment, c'est un bon signe, quoi. Voilà.
Y a-t-il combien de... Tu sais à peu près dans combien de pays elle existe?
Je peux pas vous le dire. Là. Je n'ai pas de chiffres. Oui, ça, vous me posez une colle.
Parce que, à mon avis, il y a beaucoup de pays où elle n'y est pas.
Non, mais bon, oui. Et parce que, d'abord, c'est interdit. Hein, c'est ça, le problème. Alors, quand vous êtes sous des dictatures, voilà.
Oui, les pays, où elle est peut-être dans la clandestinité aussi.
Voilà, mais les... En Russie, il y a, je crois qu'il y en a, mais c'est pas, qu'est-ce que j'allais dire. Vous savez que du temps de Vichy, lorsqu'on a eu l'occupation, d'abord dès qu'il y a eu l'occupation allemande, bon, la Ligue des droits de l'homme, les locaux ont été occupés. Et on a été, et les gens de la Ligue des droits de l'homme ont été pourchassés par le régime de Vichy. Hein. Et donc le président de l'époque, Victor Bach, a été déporté et mort en déportation. Donc voilà, et on est, il faut, donc oui, c'est effectivement sous des dictatures. La Ligue des droits de l'homme, elle défend la démocratie. C'est une organisation républicaine. Et toutes les républiques ne sont pas démocratiques aussi, ça il faut le dire, mais oui, qui défend la démocratie. Sûr, oui. Et c'est une organisation. Donc évidemment, dès qu'il y a une dictature, on est de suite, on est toujours un peu pourchassé. Il n'y a pas très longtemps, c'est symbolique, mais ça démontre le Front National, et lorsqu'il a gagné les mairies.
Je voulais t'en parler.
Voilà, la première association à qui il s'est attaqué, c'est la Ligue des droits de l'homme. Ils nous ont dans le collimateur.
Oui, ils ont supprimé le local, je crois.
Oui, voilà, bon, comme ça. C'est pas très grave. Mais,
oui, mais ça démontre, mais ça démontre une mentalité. Ouais. Voilà. Quoi,
on,
démontre,
gêne. Voilà. On gêne parce qu'on est des vrais républicains. Et alors, je parle de ça parce que. Aujourd'hui, là, je vois que l'UMP va s'appeler peut-être le républicain. Et c'est un mot qui devient à la mode, qui redevient à la mode, tant mieux. On est en train, nous, on s'est toujours défendu. Et moi, si je suis venu à lire l'homme, c'est ça, c'est sur les valeurs de la République. Aujourd'hui, bon, ça redevient, depuis les affaires là de Charlie, on sent qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on se dit, est-ce qu'on n'a pas un peu oublié ces valeurs? Notre organisation s'est toujours battue pour ça. On a un peu, des fois, prêché un peu dans le désert, et, mais on n'est pas toujours été à la mode, on s'en fout de ça. Hein. Mais c'est des choses auxquelles moi, et que les ligueurs, on y croit fortement. C'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose pour nous. Et aujourd'hui, on sent bien que tout le monde veut, et la laïcité. La laïcité aussi, c'est un des piliers de notre République. Donc, mon parcours, si tu veux, je suis passé de l'école des parents d'élèves de la FSPE, qui est une organisation, parce que pour moi, l'école, c'était important, c'est un des piliers de la République, et c'est elle qui doit porter ses valeurs. L'éducation nationale, ça s'appelle, c'est pas l'instruction nationale, hein, c'est-à-dire qu'elle a deux missions, elle a une mission d'instruction et elle a une mission d'éduquer les citoyens. Et la section de Villefranche, nous, dans nos boulots, dans nos activités, de ce qu'on fait, on travaille beaucoup avec les jeunes. On est beaucoup là-dessus pour justement porter ces valeurs républicaines. Et on a toujours fait ce travail-là. Et j'espère, bon, ce travail, des fois, on est un peu seul. Mais j'espère qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'au niveau de l'école, peut-être ce travail, on ne l'a pas fait comme il faut et qu'il faut revenir là-dessus. Et donc là, il y a des bonnes voies.
Alors oui, tu as parlé de la laïcité, on reviendra sur les actions à Villefranche et tout ça, mais tu as parlé de la laïcité, c'est très important, en plus le danger actuellement aussi, c'est que tu parlais aussi du Front National, et il y a certaines personnes au Front National, le Front National on va dire, qui se servent de la laïcité d'une certaine manière quoi, et... On se rend compte que des fois il y a certains arguments qui peuvent être à double tranchant quand ils sont mal utilisés.
Oui, mais
la mauvaise escient.
Oui, la laïcité, tout le monde la tricote un peu à sa façon, hein, j'allais dire. Par exemple, même il n'y a pas que le Front National, même quand Nicolas Sarkozy, il n'y a pas très longtemps, qui parle de. Par rapport au repas, par rapport au porc à l'école.
Tout à fait.
La laïcité, c'est pas d'obliger des enfants à manger du porc. C'est pas ça, la laïcité.
On est d'accord.
Et c'est le respect des choix. Et là, il faut pas se tromper là-dessus. Hein. Enfin, Nicolas Sarkozy qui arrive en défenseur de la laïcité tout d'un coup, alors qu'il a dit au discours de la Trane, ça c'est quelque chose. Alors nous, à la Ligue des droits de l'homme, ça nous est resté en travers. Où il a fait qu'il a comparé un instituteur, il a dit. Un curé, un rabbin, un imam sera toujours plus important qu'un instituteur. C'est inadmissible que le président de la République, une république laïque, ait pu dire ça. C'est inadmissible. Et puis, il n'y a pas à comparer. C'est deux choses différentes et nous, on ne compare pas. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est l'idée forte de la laïcité, c'est que les religieux s'occupent de religion et que les politiques s'occupent de politique. Mais que chacun son boulot, quoi. Et c'est ça, la laïcité. Donc, quand viennent les histoires de porc, là, qu'est-ce qu'on vient mettre de la religion dans du débat public? Et ça, bien sûr qu'on est contre tout ces choses-là.
Alors, surtout qu'en plus, cette histoire de porc, à la cantine, moi, quand j'étais gamin, je mangeais à la cantine, et quand il y avait du porc, et les petits juifs et les petits arabes, ils avaient de l'omelette, quoi. Bien sûr. Puis, ça posait aucun problème.
Mais non, ça pose aucun problème.
Enfin, bon. Alors, venons-en à, un peu à Villefranche. Alors, est-ce que tu peux, Guy, nous présenter un peu la Ligue à Villefranche? Qu'est-ce que vous faites? Combien vous êtes depuis combien de temps? Enfin, tout ça, quoi. Et présentez-vous, c'est que vous êtes.
Alors, je sais plus depuis quand. Il y a un moment qu'elle existe, la section de la Ligue. Ça, il faut demander à Couscous s'il se rappelle la création. Hein.
C'est avantageux d'être vieux. Non, très honnêtement, je ne me rappelle pas, mais... Non, je dirais une bêtise, donc je préfère ne rien dire, mais je sais que ça fait quand même un bon moment qu'elle est à Villefranche. Depuis que je suis à Villefranche, ça fait jamais que 35 ans, c'est pas non plus.
Oui, mais c'est beaucoup plus que ça.
Parce que c'est beaucoup plus que ça,
entendons-nous. Les cinquantenaires de la Ligue, non?
Oui.
Je me souviens plus maintenant. Ouais. Mais si tu... voilà, il y a un moment qu'elle est implantée sur Villefranche. Alors, on est à la section Villefranche des Cazeville. C'est vrai que l'essentiel de nos actions, on est actuellement que des Villefranchois, donc l'essentiel de nos actions se fait sur Villefranche. Et parmi nos actions qu'on fait, bon, on organise chaque année là une soirée plaidoirie avec l'ICL. C'est des plaidoiries sur les droits de l'homme, hein, qui se fait avec les jeunes au théâtre. On est l'an dernier, on a.
C'est des plaidoiries, c'est sous quelle forme?
Alors ça, c'est des jeunes qui, une plaidoirie, c'est-à-dire ils plaident, ils défendent et sur une thématique de droits de l'homme. C'est-à-dire c'est des jeunes du lycée là, du lycée Raymond Sagnin qui font ça. D'ailleurs, on diffuse sur CFM, elles sont diffusées ces plaidoiries sur CFM, hein, c'est ce qu'ils veulent les écouter.
Podcast, entendu de la régie au loin.
Donc. Ça se fait chaque année, et on a beaucoup de plaisir à participer à ça, parce que quelque part, si vous voulez, quand on voit cette jeunesse-là, c'est une belle image de la jeunesse, ces jeunes qui s'engagent là-dessus et qui viennent défendre une cause, parce que quand on fait une plaidoirie, c'est qu'on défend une cause, et donc il faut vraiment avoir des convictions, il faut avoir ils font ça en plus de leur travail scolaire, donc si vous voulez, ils font ça par conviction, c'est vraiment voilà. Et on a toujours une très belle image de la jeunesse, ce qui fait que et ça a fait du bien au moral et voilà. Oui.
Non, je voulais, si tu le permets, Guy, ajouter que ce sont les élèves eux-mêmes qui choisissent les thèmes. Et je voulais aussi ajouter un truc, ça va être négatif, hein, que ça fait 2 années de suite. Qu'on a une douzaine d'intervenants, des jeunes intervenants, et c'est que des filles. Les gars, faut vous réveiller un peu quand même. Je sais que vous êtes timides, mais quand même, moi, ça me choque un petit peu.
Mais Couscous, à chaque fois qu'on fait un truc avec les jeunes, au Secours Populaire, à chaque fois, c'est des filles.
Oui.
Tu te rappelles quand on a fait...
Oui, mais c'est classique.
Il y a très peu de garçons.
Ils osent pas, les gars.
Ils sont plus timides.
Mais moi, j'aurais eu 16 ans. C'est dommage. J'aurais eu 16, 17 ans. Je vois un truc où il y a plein de filles qui y vont, mais j'y vais, je comprends pas.
Moi aussi.
Ça, c'est sûr. J'aurais été le seul mec, mais j'y serais allé par solidarité, on aurait été de la Ligue.
Non, mais là, on est aussi, il faut dire qu'on est avec des jeunes. C'est-à-dire qu'avant, on faisait les plaidoiries avec des premières, donc c'était plus grand, et donc il y avait des garçons. Et là, on est avec des secondes, c'est-à-dire des 15, 16 ans, et les filles ont plus de maturité, certainement, que les garçons.
Oui, je crois que c'est l'explication. C'est dur à dire, mais
c'est pas dur à dire, c'est un fait, c'est reconnu, ça, c'est reconnu.
Deux ans plus tard, c'est l'inverse qui se fait.
Micro Dany.
Oui.
Faut que tu parles dans le micro, Dany. Moi aussi, d'ailleurs.
Oui, ensuite...
Je force la voix.
Oui, on a organisé l'an dernier. On fait beaucoup de partenariats. Donc, on travaille beaucoup un peu avec tout le monde. Hein, et on a fait un partenariat avec le lycée Raymond Savignac, les espaces culturels, les ateliers à Fontaine, sur le thème des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes. Donc là aussi, la Ligue, ça c'est un des combats de la Ligue des droits de l'homme, et sur le thème d'égalité. Et là aussi, par rapport aux jeunes, on intervient sur les jeunes, parce que les jeunes croient que ces droits, cette égalité de droits vers lequel on va quand même, qui s'améliore de plus en plus, ils croient que ça a toujours été comme ça, par exemple. Donc quand on leur fait des émissions avec l'histoire un peu, en leur montrant comment c'était il y a 30 ans en arrière, ils sont très très surpris, souvent. Ils sont très surpris de voir comment les choses ont évolué quand même dans le bon sens, et là-dessus. Donc on avait fait, donc une conférence de presse avec Camille Fabre. Histoire des combats féministes en France.
Camille Fabre, c'était
la conférencière.
D'accord.
Et dont le thème de la conférence était Histoire des combats féministes en France. On avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait, il y avait eu beaucoup de monde, et pendant ce temps, Simone Veil. Voilà. C'était programmé par les espaces culturels. On a fait aussi nos conférences avec Jean-Louis Galfzin sur la transition écologique, développement durable, des combats pour nos droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Ligue des droits de l'homme, c'est assez récent, il y a une réflexion environnementale écologique, je dirais, hein, voilà, hein, sur qu'on n'avait pas avant, parce que pour nous, oui, on était dans des combats sur les droits, et on se dit, mais peut-être que une planète propre, peut-être que ça fait partie aussi de ce qu'ont droit les hommes aussi. Et c'est la nouvelle réflexion. Ah,
vers quoi on va, enfin, d'après ce que nous annoncent les climatologues et tout ça, il va y avoir un problème humain à gérer à un moment, quoi. Parce que si effectivement les mers montent et que des terres vont être recouvertes, on va se retrouver avec de l'immigration. Enfin, des gens qui vont fuir, et ça va encore monter les gens les uns contre les autres, et je pense que la Ligue, on va avoir besoin de gens qui essayent de calmer tout le monde.
Donc quoi, aujourd'hui, voilà, il y a cette réflexion qui débute, bon, laquelle qui est nouvelle chez nous, hein, puisque jusqu'à présent, par exemple, à l'époque, quand il y a eu le nucléaire, tout ça, la Ligue n'a pas eu de réflexion là-dessus. On s'était pas occupé de réflexion énergétique, tout ça. Aujourd'hui, on y réfléchit un peu, on est en train d'y réfléchir là-dessus. Et on a passé au mois d'octobre aussi, on avait fait ça avec le Réseau Migrant. Le Réseau Migrant, c'est une association d'ailleurs dans lequel c'est un collectif, c'est pas une association, je dis une bêtise là, c'est un collectif qui a plusieurs associations villefranchoises et dont le Secours Populaire est un des animateurs.
Mais le Réseau Migrant, on a prévu, je crois, de faire quelque chose avec eux dans le futur, au niveau du Secours Populaire, au niveau de l'émission. Je parlais.
Et on a fait d'ailleurs une émission aussi avec les gens du Réseau Migrant ici, nous la Ligue,
parce que vous avez votre émission, elle passe quand d'ailleurs, je crois qu'elle passe en à peu près aux mêmes horaires que nous, mais pas les mêmes jours,
voilà, mais c'est nous, c'est le samedi,
le samedi, mais c'est pas le même samedi, voilà. Quoi, voilà, vous c'est le quatrième samedi à la même heure que nous c'est le troisième, voilà, on se succède d'une semaine à l'autre.
Et donc, oui, lors de ce film là on avait fait ce film pour collecter un peu d'argent, on avait eu du monde aussi, et bon, tout le monde. C'était Longo Londromain, ça. C'était ce film, c'était l'histoire qui expliquait le parcours de femmes roms qui avaient été chassées, qui se sont trouvées, qui vivaient au Kosovo, et qui, lors de la guerre du Kosovo, se sont trouvées, les roms se sont trouvés coincés entre d'un côté les Kosovars et de l'autre côté les Serbes. Et eux, ils étaient en trop, ils ont été obligés. Des gens qui étaient installés depuis très longtemps, ils ont été obligés de partir.
Les Roms, ils sont trop partout, malheureusement.
Et ils avaient vécu en paix du temps dans la Yougoslavie. Ouais. Là, il y avait un côté, il faut rappeler le contexte. Voilà, sous Tito, les nationalismes avaient été atténués, et sous Tito, les Roms avaient eu leur place. Même si ça n'a jamais été facile, même si ils avaient quand même eu, ils étaient à une époque là. Et donc, ils étaient installés quand même depuis très longtemps là-bas. Et ce film, il expliquait, c'est pour ça qu'on l'avait choisi, c'est qu'il expliquait que, en ce qui concerne les migrants, les gens immigrent pas parce qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs. Ils immigrent par force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont plus la place dans leur pays. Et à un moment donné, ils sont obligés de partir. Et ça le film l'expliquait bien, et ces gens-là l'expliquaient bien, c'est qu'ils se plaisaient bien avant dans leur pays, et c'était leur pays, et puis un jour, du jour au lendemain, ça n'a plus été leur pays. Et là, il y a l'histoire de ces Roms. Il y a aujourd'hui, vous voyez, c'est la même histoire aujourd'hui, par exemple, avec les chrétiens en Irak, dans ces pays-là. Et tout d'un coup, voilà, donc... non, il faut comprendre ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils sont obligés de partir parce que leur vie est en danger et ils n'ont pas le choix.
Et puis des fois, c'est même plus une histoire de vie en danger non plus. Des fois aussi, c'est le truc économique. Il leur faut bouffer, il leur faut de travail, il faut bien nourrir sa famille. Mais il faut partir, quoi.
Ça commence, effectivement, ça commence d'abord, t'as toujours plus de travail. Ah. T'es andro, donc t'as plus de travail. Et puis, il y a quand même, il y a toujours, quand c'est des guerres, il y a quand même, plus, là, ils avaient, les Roms ont eu, à un moment donné, étaient en danger de mort. Il faut dire, comme sont les chrétiens en Irak, c'est pareil. Il arrive au moment, la situation, ils sont obligés de partir, ils n'ont pas le choix. Et ils sont partis, dans ces films, il y avait une personne qui expliquait qu'elle était partie, elle ne savait même pas dans quel pays elle irait. Oui. Mais il fallait aller ailleurs. Bon, il se trouve qu'elle atterrit en France, celle-là, mais voilà.
Et après, on les retrouve au Secours Populaire.
Et ensuite, bien sûr. Et oui, bien sûr.
Mais oui.
Oui, parce qu'ils n'ont pas, quand ils arrivent, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont rien. Et donc,
c'est ça qui nous réunit un peu, quoi.
Et le Secours.
Alors, le Secours Populaire et la Ligue, c'est ça qui nous réunit un peu.
Je dirais que nous, si tu veux, la différence qu'on a, parce que vous êtes dans le caritatif, bon, nous, on n'est pas dans le caritatif. La Ligue, d'ailleurs, on se revendique, nous, d'une organisation politique. C'est-à-dire que, nous, on est sur le combat politique, sur le combat des droits, et oui, certainement qu'on est plus politique que vous, je pense, parce que nous,
oui. Nous, on ne peut pas être politique.
Non, là, vous, vous pouvez, oui, les caritatifs, vous ne pouvez pas. Voilà. Nous, on conteste les choses, nous, on revendique, on a des revendications. Et c'est là. Parce que, effectivement, les complémentaires, parce que vous vous êtes coupé, je dis, quand le bateau coule, vous êtes là et vous êtes dans l'essentiel et sur la survie des gens. Et nous, on dit, mais ça, c'est injuste. La voilà, Ligue, on n'est pas. Oui. On est, vous comprenez, nous, on est dans la. On n'est pas là, comme je dis des fois, on n'est pas là pour définir le bien et le mal. Nous, on définit ce qui est juste et injuste. Voilà. Il y a des situations qui sont injustes. Et nous, on dit, ça, c'est pas juste, et il faut combattre ça. Voilà.
Eh bien, merci, Guy. Alors, Guy, tu avais choisi une chanson qui est aussi un peu une injustice dans cette chanson. C'est la Lily, quoi, qui est une très belle chanson de Pierre Perret. Ah, il y a Christophe qui veut dire un mot avant.
Oui, moi, j'avais deux petites questions.
Alors, vas-y, Christophe.
La Ligue des droits de l'homme, ça se trouve où, à Villefranche?
Très bien.
C'est vrai, très... je sais. Et alors, pour nous rencontrer, c'est pas difficile. Tous les premiers mercredis du mois, on se réunit à la Maison des Sociétés à 20h30. Voilà.
Ok. Et ensuite, donc c'est une association, la Ligue des Droits de l'Homme.
Bien sûr.
C'est quoi? C'est sur base de bénévolat? Comment?
Alors, c'est une association. C'est une association nationale. C'est-à-dire que nous sommes une section. Et la Ligue des droits de l'homme de Villefranche, c'est une section de la Ligue des droits de l'homme, c'est une association nationale, c'est que nous, à Villefranche, on n'a pas de statut déposé à la préfecture de l'Aveyron, de Villefranche. C'est une association nationale, dont nous sommes une section, mais la section est autonome, c'est-à-dire que ce sont les militants qui viennent à la section, les bénévoles, bien sûr, hein, c'est que des bénévoles, quoi. Et ce sont les bénévoles qui décident des actions qu'ils vont faire. Voilà.
Et donc, et aussi, bon, du coup, c'est des bénévoles, et du coup, vous avez besoin d'argent aussi, comment vous... Ça se...
Alors, on tourne avec très très peu d'argent, parce que, justement, nous, on n'est pas du caritatif, donc on n'a pas... On a besoin de très très peu d'argent, et on a une subvention de la municipalité de 190 euros.
Oui.
Et c'est l'argent de nos cotisations. Et voilà. Donc,
des fois, on a besoin d'argent quand on fait venir, par exemple, un conférencier. Bon, des fois, il se fait payer, des fois, il se fait pas payer, mais il faut de toute façon le nourrir et le loger. Des fois, donc voilà, nos dépenses, ça se borne à ça. On n'a pas beaucoup de dépenses.
Ah oui, on a un très peu de budget, on a des budgets communication. Bon, on a quand on fait un film, quand on fait là, on fait des affiches, mais c'est vrai qu'on arrive à fonctionner avec très très peu d'argent, quoi. C'est pas pour nos actions, bon, c'est... Oui, c'est quand on va faire des affiches, là, ça va nous coûter des sous. Quand on fait des conférences, effectivement, il y a des frais... On travaille beaucoup avec des gens qui sont des militants, quand même. Donc, on arrive à avoir des conférenciers qui nous coûtent rien, qui nous coûtent que des frais de transport, que...
Voilà, des frais d'hébergement, voilà.
On travaille avec des gens, avec des militants, donc, voilà. Donc,
et donc, combien de bénévoles à Villefranche?
Alors, on est une vingtaine.
Une vingtaine de bénévoles. Et vous recrutez, vous avez assez...
Ah, mais la porte est ouverte à tout le monde. Ça nous fait toujours plaisir quand quelqu'un veut nous rejoindre, bien sûr.
Et tout est bon. N'hésitez pas, alors, à aller rejoindre la Ligue des Droits de l'Homme. Merci, Guy. On va écouter la chanson que tu as choisie, Lily, de Pierre Perret. Allez, c'est parti.
On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
L'homme et les devoirs. Moi, on...
Non, vous êtes trop tard. Stop.
Et tout de suite, on retrouve Philippe Rouquier d'Inter-Emploi. À toi, Philippe.
Bonjour à tous et quelques informations maintenant sur Inter-Emploi et sur l'insertion par l'activité économique sur le Villefranchois. Inter-Emploi, association intermédiaire, comme les quatre autres associations intermédiaires du département de l'Aveyron, se sont vus confier par la préfecture le travail de mise sous pli pour les élections départementales. Vous savez que à chaque élection, vous recevez chez vous une enveloppe avec des professions de foi, des bulletins de vote. Il faut savoir que, depuis 2002, ce sont les structures d'insertion par l'activité économique qui ont rempli ces enveloppes, les ont triées, les ont classées par code postal et les ont confiées à la poste. La seule fois où ça n'est pas arrivé, c'était pour les dernières élections présidentielles et législatives où le travail avait été confié à un routeur. En quoi consiste ce travail ? Il faut savoir que, début mars, les cinq associations intermédiaires regrouperont environ 250 personnes sur un même site proche de Rodez afin de pouvoir traiter plusieurs dizaines de tonnes de papier aux côtés des services de la préfecture et permettant de travailler sur les 18 des 25 cantons du département, des 23 cantons du département, excusez-moi, 5 cantons décidant de travailler à faire cette mise sous pli seul et sans l'assistance ni des services de l'État, ni des services de l'insertion par l'activité économique. C'est une opération extrêmement importante pour les structures d'insertion. La première d'abord, c'est la reconnaissance par l'État et par la collectivité au sens large du terme, de la qualité de notre travail et de notre capacité à pouvoir faire à grande échelle des travaux de qualité. De qualité notamment parce que, comme vous le vous en doutez, 18 cantons, ce sont 18 fois une liste de candidats et il doit y avoir ce que l'on appelle une certaine forme d'étanchéité entre les différents emplacements dans la salle de travail permettant de faire en sorte que un candidat de Millau ne se retrouve pas dans l'enveloppe d'un électeur de Villefranche-Jouarre. Ce travail-là est aussi intéressant pour nous parce qu'il permet de donner du travail pendant au moins 3 jours à peu près donc 250 salariés. C'est du travail, c'est une rémunération, c'est aussi l'expérience du travail en groupe, l'expérience d'un travail organisé, la possibilité de découvrir pour certains le monde du travail, de reprendre confiance en eux. C'est aussi pour les structures d'insertion une sorte de challenge puisqu'il faut organiser la venue de demandeurs d'emploi venant des quatre coins du département, que ce soit de Mur-de-Barrez, de Sainte-Afrique, du Villefranchois, de Millau et évidemment du Ruthénois et du Bassin. Nous organisons ainsi tous les transports, nous prenons les gens proches de chez eux et nous les ramenons proches de chez eux. Fiers de ce travail, les structures d'insertion par l'activité économique s'inscrivent ainsi dans la droite ligne de l'économie sociale et solidaire, puisque elles font travailler des demandeurs d'emploi de leur territoire, au service de leur territoire, et utilisent la rétribution liée à ce travail, puisque nous facturons ce travail. Nous utilisons donc cet argent au bénéfice du territoire, étant donné qu'il sert à financer l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers un emploi durable à l'extérieur de nos structures. Merci et à la prochaine fois.
Merci, merci à toi Philippe. Alors une dernière petite annonce rapidement, nous sommes samedi et demain dimanche à Brandonnet. Vous pourrez assister à une pièce de théâtre, Madame Anouk, par la Compagnie de l'Alzou, à 14h30 à la salle des fêtes. Et l'entrée est à 6€, il vous sera distribué, offert des boissons et des gâteaux. Et l'ensemble des bénéfices sera pour le Secours Populaire de Villefranche de Rouergue. Alors venez-y parce que la Compagnie de l'Alzou bien sympa. Là, il y a deux ans, j'avais été voir leur pièce et ils m'avaient bien fait marrer. Et c'est bien sympa. Alors venez nombreux, Brandonnet, demain à 14h30 à la salle des fêtes. Voilà, je crois qu'il est temps de se dire adieu, mes amis. Enfin, adieu, au revoir.
Non, au revoir.
Merde, faut qu'on le pof déconner. Guy, merci à toi d'être venu.
Merci.
C'était sympa. Merci. Stéphanie, merci à toi d'être venu. Tu vas pas nous répondre parce que t'as eu du travail et t'as été obligé de repartir. Mais on te remercie. Dany s'en va déjà avant que
non,
ce soit
c'est
fini.
Pas ça, je me décoince.
On dit au revoir à Lisa qui était à la régie et qui arrêtait pas de nous harceler. Et à sa petite Émilie qui l'a secondée. Merci à vous. Et on vous dit à toutes et à tous, chers auditeurs, au mois prochain. Ciao, ciao.
Adesios.
Ciao.
Au revoir.
À bientôt.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passou de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? E do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem, essa moça.